Les enjeux internationaux.
Et voici un autre spécialiste en la personne de Thierry Garcin. Bonjour Thierry.
Voilà, qui sont et que sont les classes moyennes en Chine? Vous avez 3 heures. Non, sérieusement.
Elles sont nombreuses déjà, Thierry.
Mais pas tant que ça, justement. J'ai été surpris par l'analyse de Thierry Sanjon, professeur à la Sorbonne, géographe, qui répond à cette question. Alors déjà, la notion de classe moyenne est souvent définie par ce qu'elle n'est pas. C'est une moyenne, précisément, déterminée par rapport au revenu médian, lequel recouvre beaucoup de diversité, de disparité. Cette classe n'est ni vraiment très riche, ni modeste, ni ouvrière. Elle dépend souvent du salariat, voire du salariat pérenne avec le fonctionnariat, ou bien de l'enrichissement rapide. De toute façon, la classe moyenne est spécifique d'un pays à l'autre. Personne n'imaginerait comparer, évidemment, la classe moyenne en Inde et la classe moyenne en Chine, par exemple. Ce sont pourtant les premières à s'être endettées. Elles sont aussi les premières, dans ce cas-là, à protester lorsque l'économie se ralentit fortement ou est en crise. On peut citer le cas, évidemment, du Brésil, il y a quelques années, ou d'autres pays, d'où l'intérêt évidemment de s'en occuper, a fortiori pour la Chine. Alors, qui sont ces classes moyennes, Thierry Sanjon?
Il est très difficile de définir par essence une classe moyenne, et d'ailleurs les sociologues disent plutôt que ce qui a évolué, c'est les strates extrêmes, en fait, c'est les plus pauvres et les plus riches. Et il n'y a pas forcément une véritable conscience de classe moyenne. Cette classe moyenne, elle se retrouve à travers des réformes qui ont été lancées notamment dans les années 1990, avec la contractualisation du travail, avec une meilleure formation, hein, on a quand même 27 millions d'étudiants en 2014, et des secteurs comme l'ingénierie qui sont très importantes, un développement aussi de la place du tertiaire dans un contexte d'urbanisation généralisée au sein de la Chine. Les revenus moyens, alors le revenu moyen chinois urbain est de 4000 euros en 2014. On peut penser que la classe moyenne, ce sont des ménages qui ont entre 2-3 fois le revenu moyen, donc entre 8000, 12000, 15000 euros à l'année. Et c'est surtout leur mode de vie peut-être qui est leur nouvelle valeur qui les caractérise à travers des migrations pendulaires au sein de la ville grâce aux nouvelles structures de transport comme le métro, la nouvelle consommation, les hypermarchés, Carrefour par exemple, l'achat d'un appartement, le confort, la décoration de l'appartement, de plus en plus aussi l'automobile. Et puis ce sont des foyers qui sont connectés, qui achètent par Internet, en fait, qui nous ressemble beaucoup, au fond. Et depuis la deuxième moitié des années 90, qui ont profité de la réforme du temps de travail et de l'émergence, donc, initialement des 3 semaines d'or, et puis il y a eu 2 semaines d'or liées au 1er octobre, et puis à la fête du printemps, puis aujourd'hui, il y a d'autres fêtes qui émaillent l'année et qui permettent d'avoir donc des congés pour partir en vacances, et donc le développement aussi des loisirs, du tourisme, tourisme intérieur et tourisme international. Des nouvelles valeurs aussi qui tiennent probablement à la valeur de l'argent dans la société chinoise, à la réussite matérielle.
La conscience d'un statut social, d'être soi-même classe moyenne.
Je crois que au niveau de cette conscience, le logement joue un rôle crucial, à mon avis. Notamment dans les années 1990, il y a eu une politique de privatisation du logement. Nous avons été aussi dans la fin des entreprises publiques, et donc aux salariats ne sont plus attachés des avantages sociaux, donc il faut cotiser pour sa retraite, cotiser pour l'assurance maladie, il faut s'assurer en fait socialement, et par là même le logement, c'est un indice de réussite sociale, mais c'est aussi un investissement pour l'avenir, et un couple aisé a facilement 3 voire 4 appartements, un appartement pour lui-même et ses enfants, un appartement pour ses parents, un appartement qu'il loue, qui peut être son ancien appartement en centre-ville, qu'il loue éventuellement à des migrants ou qu'il a retapé et qu'il loue au prix du marché. Et puis, éventuellement, on peut aussi arriver au niveau du logement qui est en périphérie de la ville et qui est de l'ordre de la résidence secondaire.
Alors, Thierry Sanjon, rappelle, vous êtes professeur à la Sorbonne et que vous avez publié chez Autrement, c'était en 2015, un atlas de la Chine bien, bien pratique et très, très, très utile encore une fois. Vous insistez aussi sur la notion, concernant les classes moyennes en Chine, sur la notion de mixité sociale.
Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que la société chinoise n'est pas comme un ballon de rugby, à savoir que la classe moyenne n'est pas majoritaire, prépondérante et bien identifiable d'une certaine manière, même si on a des indices. Tous les indices que j'ai donnés, plus ou moins, une bonne partie de la population qui n'est pas strictement la classe moyenne en participe de ces indices. Et dans une thèse que Karine Oriot a faite sur une ville nouvelle de Shanghai qui s'appelle la ville de Songjiang, elle montrait bien que dans cette ville nouvelle se mêlaient des populations extrêmement variées dans les pratiques urbaines et dans des logiques de consommation identiques. Alors les classes moyennes en tant que telles, alors si on les définit en termes de population qui a acheté son appartement au prix du marché, les anciens résidents qui ont bénéficié d'aides publiques pour devenir propriétaires, les migrants qui sont venus vivre et travailler dans la ville nouvelle et qui ont pu acheter leur appartement, et puis au debout, toujours, ces deux extrêmes dont je parlais tout à l'heure, à savoir les privilégiés de la ville anglaise, de style anglais de Songjiang qui s'appelle Thamestown, et les anciens résidents de la ville-centre de Shanghai qui ont été délogés par les autorités et qui se trouvent aujourd'hui au nord-est de Songjiang dans des logements sociaux. Dans les faits, dans les espaces publics ou les espaces semi-publics, vous savez, ces espaces aménagés, ces espaces verts qui sont dans les résidences, vous avez donc des espaces de fréquentation et de mixité sociale qui montrent une transition sociale de la Chine sans qu'il y ait forcément une affirmation d'une classe moyenne en tant que telle.
Alors, ce qui frappe juste d'un mot, Thierry Songjoint, pour conclure, c'est le caractère très évolutif de cette composition dans ces différentes strates de la société chinoise, y compris en ce qui concerne les classes moyennes. Juste d'un mot, c'est ce qui frappe, c'est très évolutif.
C'est très évolutif et la propriété du logement, qui est une des caractéristiques majeures, c'est aussi le lieu de défense d'intérêts concrets au sein de copropriétés qui sont aussi un débat démocratique d'une certaine manière, à des échelles locales, mais qui peut faire évoluer la société dans les années à venir.
Thierry Songjiont, professeur à la Sorbonne, géographe, on peut renvoyer évidemment à son Atlas de la Chine chez Autrement, paru en 2015. C'était une réédition. Franceculture.fr pour réécouter l'émission, pour la télécharger. Et demain, nous allons parler d'un sujet plutôt aride et difficile, mais passionnant. C'est la Colombie, évidemment, la suspension, sans doute provisoire, du processus de paix. Notre invité sera un grand spécialiste de la question, Daniel Pecot.
Et alors, vous savez, si vous voulez appartenir aux classes moyennes chinoises, Thierry, vous n'êtes pas obligé d'acheter un appartement au prix du marché. Il suffit d'avoir 50% de votre revenu disponible affecté à des biens qui sont considérés comme étant superflus, hein, ce qui est
très compliqué. Et vous pensez que c'est ce que je fais ?
Je me permettrai pas de dire que vous dépensez dans le superflu. Thierry, je vois que vous avez le même pull d'ailleurs depuis 2 ans et demi.
Avec des trous.
Voilà.
Merci.